s'accomplissait sous leurs yeux. Alors, Jésus a vraiment marqué son autorité de prophète avec l'accomplissement de cette prophétie. Et si cette prophétie incroyable s'est accomplie, alors toutes les autres vont s'accomplir. Et toutes les autres, un bon nombre d'autres se sont accomplies. C'était la preuve de l'amour de Dieu qui était là sur la croix. Et Jésus a beaucoup insisté sur cette prophétie. Tout le monde le savait, hein, même ses ennemis. Et c'est vraiment central dans la Bible, l'accomplissement de la prophétie annoncée par Jésus lui-même, sa mort 3 jours après sa résurrection. Alors, nous allons voir ce matin d'autres prophéties qu'il a également exposées. Il faudra peut-être mettre un écran pour ceux qui suivent. On va regarder beaucoup d'images ce matin pour ancrer l'accomplissement de ces prophéties dans la réalité de ce qu'on vit. Et. Alors, je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 16. On va voir qui se sont accomplis après son ascension. Donc, quand il était au ciel auprès de son Père. Matthieu chapitre 16, versets 17 à 18, il a fait des prophéties sur l'Église qui se sont accomplies. Alors, on va regarder ça ensemble. Matthieu chapitre 16. On va rester encore sur l'évangile de Matthieu, hein, pour simplifier un peu. Je vais me rapprocher un petit peu peut-être de là. Projection en même temps, ce sera plus facile. Donc, Pierre vient de déclarer, inspiré par le Saint-Esprit, que Jésus était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et donc, Jésus reprend la parole au chapitre 16, verset 17. Il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de David. » Tu es heureux, Simon, fils de David, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas point contre elles. Tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prouveront point contre elle. » Donc l'Église, c'est l'Assemblée. Hein? Et on peut se demander, mais les apôtres devaient se demander, mais qu'est-ce que ça peut être, cette Église dont il parle? Et donc l'accomplissement de cette prophétie a eu lieu quelque temps plus tard, à la Pentecôte, donc vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc l'Église, c'est ce groupe de croyants qui ont reçu l'Esprit de Dieu, et qui sont donc les témoins de Jésus aujourd'hui dans notre monde. C'est ça l'Église de Jésus. Et il y a une dimension individuelle, ce sont tous des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Et puis il y a une dimension collective aussi, l'Église c'est l'Assemblée, hein. C'était ainsi que le sens de ce mot est Église, dans la Septante ça désignait, il était utilisé ce mot pour traduire en grec
l'assemblée des enfants d'Israël. Donc il s'agit bien de ce groupe de personnes. Et dans Actes, donc, voilà ce que nous lisons au début du livre des Actes. Ce qu'est l'Église de Jésus. Actes 2, 41. Ceux qui acceptèrent la parole, la prédication qui a suivi la Pentecôte, ils furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Donc d'une centaine de personnes qui étaient dans la chambre haute, d'un coup, ils sont passés à 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit de tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, et ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur bâtissait ainsi son Église. Alors, l'Église était une, unique et unie. Hein. C'est ça l'Église de Jésus. Et il y a eu... Cette église a grandi, hein. Voilà un petit peu les pourcentages de l'humanité, de chacune des religions ou d'absence de religion. Mais les chrétiens représentent quand même ceux qui se disent chrétiens, qui se réclament du nom de Jésus, représentent 32% de l'humanité aujourd'hui. Donc l'église de Jésus-Christ s'est vraiment développée. Bon. On peut dire il y a beaucoup de personnes qui sont des chrétiennes de nom, peut-être qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint. Bon, si on veut compter notre famille d'église à nous, les évangéliques, j'ai vu qu'on en comptait plus de 600 millions dans le monde. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Hein. Donc, cette prophétie, on peut dire qu'elle s'est accomplie. Donc voilà la répartition des chrétiens dans le monde. Alors il y a des endroits où il n'y en a pas beaucoup. Mais bon, en Amérique, hein, les chrétiens sont très largement majoritaires. Et également toute la partie sud de l'Afrique. Et donc là, il y a une grande zone blanche où ils sont beaucoup moins nombreux. En France non plus, on n'est pas très très nombreux. Donc, cette prophétie de Jésus s'est accomplie, ça nous semble tellement évident, mais on ne peut que constater qu'aujourd'hui, cette prophétie se poursuit. L'Église, toujours, il y a des pierres qui sont ajoutées à cet édifice spirituel, des pierres vivantes, et Jésus bâtit encore aujourd'hui son Église. Alors, il y a une autre prophétie également que Jésus a faite. Par rapport à son Église, il a prophétisé qu'elle serait persécutée. Il a prophétisé qu'elle serait persécutée. Matthieu 10, chapitre 16 à 31. Donc, je n'ai pas pris dans l'ordre les prophéties, je les ai organisées un petit peu, pour que je les classifie un petit peu. Matthieu 10. Donc là, c'est une prophétie qu'il a donné après avoir envoyé ses disciples, mais il leur avait dit d'aller seulement vers les enfants d'Israël, la première partie du chapitre 10, mais dans la deuxième partie du chapitre 10, on voit que, comme le font souvent les prophètes dans l'Ancien Testament, il déborde un petit peu le cadre dans lequel il est en train de s'exprimer pour étendre ses paroles bien au-delà de la mission qu'avaient à faire les apôtres à ce moment-là, les douze à ce moment-là. Verset 16. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant les rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et le serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébuth, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi les gens de sa maison. Ne les craignez pas donc. Il n'y a rien de caché qui ne soit découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le à plein jour. Ce qu'on vous dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même, vos cheveux sont tous comptés. Donc, les chrétiens ont été effectivement, et sont encore aujourd'hui persécutés. On voit ça dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 8. Au début, il y a le passage qu'on a lu tout à l'heure où ils sont... Les hautement loués, tous ces disciples de Jésus. Mais après, les choses vont changer petit à petit. Il y a les premières arrestations, et puis après, les premiers coups, et enfin le premier martyr, Étienne. Donc on voit toute cette progression en Actes chapitre 4 jusqu'au chapitre 8. Et oui, on peut dire vraiment que la prophétie de Jésus s'est accomplie. Ils ont été persécutés, même si au début, au moment de la Pentecôte, tout allait bien. Mais après, les choses se sont progressivement détériorées jusqu'à ce qu'ils ont été obligés de partir de Jérusalem. Sans doute, ils se sont souvenus des paroles de Jésus. Alors, jusqu'à présent, cette persécution continue. Jusqu'à présent, les disciples sont persécutés. Alors, vous connaissez Père Porte Ouverte, avec sa carte qui représente les différents pays où il y a de la persécution. Bon, mais vous voyez, ça fait l'inverse de la carte de tout à l'heure. Hein. Les pays où les chrétiens sont en minorité, il y a de graves persécutions. Hein, dans toute là où règne l'islam, l'hindouisme, en particulier, ou l'athéisme, les chrétiens sont persécutés. Et puis ça augmente, hein, si on recule dans le temps. Hein. Ça, c'était en 2018. Il y avait moins de pays qui entraient dans cet indice, dans ce... Oh, non, ça n'a pas marché. Oula, il a perdu le réseau, mince. Ah, désolé. Bon, on a vu l'image.
C'est quoi ?
260 millions de personnes persécutées, de chrétiens persécutés, relève Porte Ouverte. un chrétien sur 8 dans le monde est persécuté. Dans la chambre haute, Jésus, vous savez, a rappelé à ses apôtres cette persécution. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Donc ça, c'est Jean chapitre 12. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Quand Jésus dit ça, il n'avait pas été encore arrêté, battu, flagellé. Et il, par contre, avait été plusieurs fois menacé de mort. Il avait été plusieurs fois poursuivi, traqué à cause de ses paroles et de son enseignement. Mais il n'avait pas été blessé physiquement. Enfin, il n'avait pas été touché. Dieu n'avait pas permis qu'il soit physiquement touché par des coups et des choses comme ça. Donc, il dit à ce moment-là, comme j'ai été persécuté, hein. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc la persécution, c'est davantage que l'atteinte à l'intégrité de notre corps ou de nos biens, mais c'est aussi une persécution dans le sens d'être poursuivi, hein, dans le sens d'être recherché, d'être harcelé, parce que l'on est chrétien. Et donc on peut être persécuté sans forcément, comme là au Pakistan, recevoir des pierres. Hein. En tout cas, cette parole, cette prophétie de Jésus sur la persécution de son Église s'est accomplie et continue de s'accomplir encore aujourd'hui. D'autres prophéties de Jésus, il a prophétisé que ceux qui n'ont des jugements pour ceux qui ne croiront pas en lui, ceux qui se sont opposés à lui. Jésus a prophétisé des jugements qui se sont aussi accomplis. Alors, à Matthieu chapitre 11, si vous êtes Matthieu chapitre 11, au verset 20 à 24, qui c'est qui voudrait lire ces versets, chapitre 11, 20 à 24. Jésus a prophétisé sur trois villes en particulier de la région de Galilée où il a exercé son ministère. Oui.
Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaida, car si les miracles ont été faits au milieu de vous, vous avez été faits dans Tyr et dans Sidon. Il y a longtemps qu'elles seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous.
Oui, jusqu'à la fin du 24.
Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi.
Donc trois villes où Jésus avait particulièrement exercé son ministère, trois villes qui ne se sont pas repenties et qui ont disparu. Hein. Elles ont connu pendant quelque temps une certaine prospérité, mais dans la réalité, petit à petit, elles ont disparu. Donc ça c'est la ville, la première. C'est les ruines de Chorazim, avec sa fameuse synagogue noire, aux pierres basaltiques noires. Donc elle a été fouillée hein, pour la retrouver, il y a eu des fouilles qui ont été faites, et elle avait vraiment disparu, était rayée de la carte. Également pour Chorazim, même chose, il n'en reste plus rien que des ruines. Ces villes ont disparu et Capernaum, qui a connu pendant plusieurs siècles une certaine prospérité, il n'en reste plus rien également. Donc il y a eu la maison de pierre qui a été sur lequel il y a eu une église qui a été fondée, etc. Mais tout ça finalement a disparu et a été rayé des cartes. Et ça n'a pas été le cas d'autres villes comme Nazareth. Donc jusqu'à aujourd'hui, hein, cette malédiction s'est accomplie. Il y aura un jugement à venir, mais il y a déjà eu un jugement par rapport à ces villes qui ne sont plus là. Et ce serait difficile, je crois, aujourd'hui, d'entendre ces paroles, de pouvoir lire ces paroles de Jésus avec ces villes toujours en place. Hein. Mais ça n'a pas été le cas. Jésus a annoncé un jugement sur les responsables religieux. Matthieu chapitre 23. Il a prophétisé, vous savez, des malédictions sur les pharisiens et les scribes hypocrites. Donc on peut lire versets 29 à 36. Donc juste avant, il y a les malédictions qui sont prononcées. Et juste lire les dernières paroles de Jésus jusqu'au verset 36. Donc à partir du verset 29, si quelqu'un veut faire la lecture.
Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes des fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpent, race de vipère. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération.
Donc les pharisiens et les sadducéens ont disparu. Leurs idées sont disparues avec la fin de la nation juive, quand la nation juive a été rayée de la carte. Ils ont disparu. Leurs idées sont... Ce groupe, leurs idées, leurs opinions, tout a disparu. Tout a disparu. Il y a eu également le jugement de la nation juive, le texte qui suit, du verset 37 à 24, Matthieu 24, chapitre verset 2, donc du verset 37 de 23 à 24, 2. Qui est-ce qui voudrait lire ce passage? Donc là, l'image, c'est la parabole du pharisien et du publicain. Celui qui prie en levant les yeux au ciel et celui qui prie en se prosternant à terre. Avec Jésus et ses disciples derrière. C'est une gravure. Donc, prophétie sur Jérusalem.
Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui la couche. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Comme Jésus s'en allait au sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Voilà, donc ça c'est une maquette qui représente Jérusalem, hein, qui est à Jérusalem, la Holy Land s'appelle cette maquette, qui est une reconstitution de ce que pouvait être Jérusalem du temps du Seigneur, avec le temple là donc, et toute la ville et toutes les constructions qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, avec les différentes enceintes qui ont été ajoutées. Ça faisait 7 km, je crois, de circonférence. Et elle a habité 600 000 personnes qui pouvaient vivre là. Et donc, vous savez ce qui s'est passé. Donc, l'histoire est très claire. L'historien juif Flavius Joseph a vécu le siège de Jérusalem, sa capitulation. Il a décrit tout ça en détail en tant qu'historien et que témoin de ces choses-là. Donc en 66, en 66, oui, les Juifs se révoltent, il y a des mécontentements. Et puis 4 ans plus tard, donc l'Empire romain met en œuvre 4 légions contre Jérusalem. C'est le général Titus, le fils de tout nouveau empereur, qui prend les commandements. Et la ville va énormément souffrir, ça va être un immense gâchis. À l'intérieur de cette ville, il va y avoir des disputes entre les différentes factions juives à l'intérieur. Et finalement, il va y avoir un siège qui va être fait à la ville. Et au mois de... juste à Pâques, le siège a lieu. Donc quand il y a un maximum de juifs, Joseph Flavius dit qu'il va y avoir 1 million de juifs à ce moment-là dans l'enceinte de Jérusalem. Et il va y avoir des centaines de milliers de morts et de déportés. Hein. La population va être massacrée suite à leur résistance insensée. Donc le temple va être incendié. Le général dit qu'il ne voulait pas l'incendier parce qu'il trouvait cette construction absolument remarquable. On disait à ce moment-là que celui qui n'avait pas vu le temple de Jérusalem n'avait jamais vu une belle construction. Le temple de Hérode, qu'avait fait rénover Hérode, et le temple a brûlé. Il y a eu d'énormes souffrances, un énorme gâchis. Et le jugement de Dieu est tombé sur la ville de Jérusalem, selon ce que Jésus avait prophétisé dans les larmes. Selon ce que Jésus avait prophétisé dans les larmes. On peut noter que l'État juif moderne que nous connaissons, fondé en 1948, ne ressemble pas à ce qu'était la nation juive de l'époque. C'est un pays laïque, hein, un pays qui n'est pas, comme à l'époque, organisé, centralisé autour du temple. C'est un pays qui est différent. Et quand Jésus dit aux responsables religieux, votre maison vous sera laissée déserte, jusqu'à présent cette prophétie est maintenue, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, jusqu'à ce qu'il reconnaisse Jésus-Christ comme le roi jusqu'à présent. Mais bon, les prophéties avancent. Et la refondation de l'État juif est l'accomplissement d'autres prophéties encore. En tout cas, le jugement est tombé, comme Jésus l'avait annoncé. Pour terminer, une autre prophétie qui est plus proche de nous et qui nous réchauffera plus le cœur, pour terminer en Matthieu 26. Si quelqu'un veut lire du verset 6 au verset 13, une autre prophétie de Jésus qui nous touche de près sur Marie de Béthanie. Alors j'avais d'autres images là, je ne vous ai pas montré, donc là, le détail du temple. Ça c'est l'arche de Titus qui est à Rome, hein, et qui est encore debout. Elle,
est encore debout le bas-relief qui représente la victoire de l'Empire romain sur la nation juive. Vous voyez, il porte en triomphe le chandelier. Et ces choses-là sont réelles, se sont réellement passées d'une façon indiscutable. Et il y a encore des traces de tous ces drames encore aujourd'hui. Alors Matthieu 26, maintenant, qu'est-ce qu'il voudrait lire du verset 6 au verset 13? Oui, Fallon.
Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Siméon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum plus cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait.
Voilà. Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Donc, l'évangile de Jean nous donne des précisions. Jean chapitre 12. Donc, il s'agit de Marie, hein, la sœur de Lazare. Et on a même des précisions sur le prix du parfum qu'elle a répandu, l'équivalent d'une année de salaire. Alors, c'est formidable que, depuis ces paroles de Jésus, tout le monde connaît, dans le monde entier, tous les chrétiens connaissent l'histoire de Marie de Béthanie qui a versé le parfum sur la tête de Jésus et qui a embaumé toute la maison. L'acte de Marie a inspiré, je pense, des millions de femmes sur la terre et a inspiré également des millions de prédications de la parole de Dieu. Alors, cette prophétie de Jésus s'est, elle aussi, parfaitement accomplie et on peut se réjouir de cela également. Voilà, on arrive au bout de la liste de ce que j'avais noté dans l'évangile de Matthieu. Il y en a d'autres qu'on aurait pu soulever, mais bon, ça rentre plus ou moins dans les catégories. Alors, en conclusion, qu'est-ce que ça représente, quelle application pour nous aujourd'hui? Je pense que l'accomplissement de ces prophéties doit contribuer à renforcer notre foi dans le Seigneur Jésus, renforcer notre foi dans ses paroles, éveiller également la crainte de notre Seigneur. On voit ceux qui ont suivi, ceux qui sont devenus disciples de Jésus, ce qu'a été leur destinée à travers ce souvenir de Marie, et puis ce qu'a été ceux qui se sont révoltés contre lui, qui l'ont pas reconnu, qui ont voulu le chasser, qui ont voulu le précipiter des rochers pour le faire disparaître, qui ont voulu lui lancer des pierres et qui l'ont finalement crucifié. Ah ben voilà, le jugement est tombé sur eux. Et c'est pas rien que le nom de Jésus-Christ. Savons qu'un jour, tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera que que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père, et ce sera fait. Donc, et on a la prophétiquement quand même quelque chose qui doit inspirer la crainte, que ce soit pour les croyants, que ce soit pour les non-croyants, par rapport au nom de Jésus. Il y a des prophéties de Jésus qui ne se sont pas accomplies, qui sont liées à son retour. Alors on verra la semaine prochaine. Toutes ces prophéties se sont accomplies, celles qui sont liées à son retour et qui nous concernent de près, à nous chrétiens, s'accomplira aussi. Donc s'accompliront aussi, donc on regardera cela, Dieu voulant, la semaine prochaine. On pourra... Il y a beaucoup de chants qui, dans nos recueils, qui expriment le parfum d'adoration. On pourra en chanter un. J'en ai noté quelques-uns. On pourra en choisir un pour le chanter. Je vais prier et puis pour chanter un chant. Bon, il y a pour cet immense bonheur. Vers toi, Seigneur, s'élève ma voix pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur. Je te donne mon cœur, je te donne tout. Et béni soit le lien qui parle de ce parfum d'adoration que nous pouvons verser encore aujourd'hui dans le prolongement de ce Café Marie, d'une autre manière, par de chant et par de notre adoration. Seigneur, notre Père Céleste, tu as permis que nous soyons les témoins de l'accomplissement de toutes ces prophéties en regardant dans l'histoire. Quelle responsabilité nous avons, que n'ont pas eu ceux qui ne l'ont pas vu, tous ceux qui ont été martyrisés avant même la chute de Jérusalem, qui ont été livrés en spectacle dans les cirques de Rome. Seigneur, fortifie notre foi. Fais-nous grandir, fais-nous progresser dans la foi, dans ta parole. Que nous puissions fonder notre courage dans l'accomplissement des prophéties qui ont eu lieu. Merci Seigneur de ce que tes paroles ne tomberont pas par terre, comme dit ta parole, mais que un jour, elles s'accompliront toutes. Et Seigneur, que nous soyons fidèles jusqu'à ce moment-là. Tu ne prévois pas des temps faciles. Tu as dit que la foi chrétienne était marcher sur un chemin étroit et périlleux, et que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront d'une façon ou d'une autre persécutés. Seigneur, garde-nous fidèles. Tu nous as avertis. Tu nous as dit ce qui allait se passer. Garde-nous fidèles, Seigneur, et toujours joyeux. Dans le nom de Jésus, amen. Alors,